应该是打高尔夫了。
Au revoir, les enfants. À bientôt.
Au revoir, mon père.
Au revoir, mon père.
Au revoir, mon père. Au revoir, mon père.
I love you, but you don't know what you're talking about.
I love you too.
Elle vous a trahi et vous n'avez jamais compris pourquoi.
Comment savez-vous toutes ces choses?
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de cinéma sur Transistor. Et pour commencer cette année en douceur, notre toile accueille la tendresse du dernier film de Jim Jarmusch, Patterson. Et c'est aujourd'hui les yeux et la voix de Kabila qui se joignent aux miens pour la contempler et en discuter. Bonjour à toi. Et puis Pierre nous rejoindra aussi à la fin de l'émission pour une petite nouveauté dans l'émission. Bonjour Pierre.
Bonjour Rémi.
Alors Patterson, donc, c'est le premier chatoiement de ce film, à la fois le nom du héros et celui de la ville où il est chauffeur de bus tout en occupant son temps libre à retranscrire la beauté du quotidien dans les poèmes dont il couvre un carnet qui ne le quitte jamais. Et le soir, Patterson rentre chez lui et retrouve son chien Marvin et surtout sa pétulante compagne Laura, adepte de couture, de cupcakes, de guitare folk et de noir et blanc. Et puis Patterson finit sa journée au bar où l'attend Doc, le barman, et Everett, l'amoureux éploré qui vient oublier son chagrin. C'est une promenade dans le quotidien qu'offre Jarmusch à travers cette traversée d'une semaine de ce personnage placide et lumineux et de son petit microcosme. Alors j'en dis pas plus parce que ça serait déjà commencé à essayer de parler de ce film, mais je te demande tout de suite ton avis, Camilla, sur Patterson. Donc.
Moi, j'ai beaucoup aimé et j'ai trouvé que c'était un film assez doux et très tendre et surtout un film qui fait réfléchir. On y pense souvent après l'avoir fini et du coup, on évolue un peu dans le sentiment qu'on a pu ressentir sur ce film et j'ai beaucoup apprécié ça.
Alors, j'ai pas cette chance parce que je l'ai vu hier soir, mais en tout cas, la première impression est extrêmement positive. C'est vraiment un film, oui, extrêmement agréable à regarder. Beaucoup en auraient fait leur palme à Cannes et je pense que j'aurais fait partie de cela si je tiens compte des films en sélection que j'ai vus, parce que c'est vraiment un film très très beau comme on en fait peu en ce moment.
Oui, je suis d'accord avec toi, c'est un regard de personnage Patterson qui sait écouter et qui sait observer ce qui se passe autour de lui avec une rare tendresse et sensibilité. J'ai l'impression que même si il ne s'exprime pas beaucoup en face à face avec les personnes et qu'il est assez réservé, je sais pas, il a un regard très très ouvert et très empathique envers tout ce qui l'entoure, que ce soit dans le bus ou dans le bar.
Oui, son regard arrive à capter une espèce d'harmonie du monde, quelque chose d'un petit peu à la fois bienheureux et bon enfant dans une espèce, oui, une organisation du monde harmonieuse. Et ça passe par un certain nombre de trouvailles cinématographiques qui sont pas forcément là pour faire sens, mais juste pour donner une impression de rime, finalement. La poésie, elle est peut-être là aussi. Je pense à ces jumeaux qu'on croise tout le long du film. Il y a des jumeaux disséminés un petit peu partout dans le film et qui font juste écho à la première réplique du film où Laura lui dit qu'elle a rêvé qu'ils avaient des jumeaux et se met à voir des jumeaux partout comme si le monde répondait au rêve.
Et oui, c'est un peu ce que tu décris. Il trouve des rythmes et des répétitions ou de la poésie dans les choses les plus triviales, les plus prosaïques, et qu'il arrive à embellir à travers une sensibilité toute particulière. Et...
Oui, à un moment, il croise une jeune fille qui lui lit un poème et il dit qu'il y a trouvé de magnifiques rimes internes. et je trouve que c'est un petit peu ce qu'on trouve dans ce film aussi, en fait. Exactement quelque chose qui rime de l'intérieur, si on peut dire. Je pense à d'autres trucs comme ça. quand il place dans le bus de Patterson les deux personnages principaux du Moonrise Kingdom de Wes Anderson, qui sont un générique de cette émission au passage,
oui.
et juste cette espèce d'écho à travers même le cinéma, où ce rappeur qu'on croise dans une laverie en plein milieu de la nuit, en train de s'entraîner dans la lumière blafarde de la laverie, et un certain nombre de rencontres comme ça, et puis tous ces personnages dans le bus.
Ou le chinois de la fin, il est quand même assez exceptionnel. C'est comme si la vie était monotone, et puis on a des sortes de rencontres qui peuvent sembler assez anecdotiques et qui font changer. Enfin, on peut trouver un sens à tout.
Et tu parlais de ce poète asiatique qui croise à la toute fin du film, et je trouve
que... Ah non, il est japonais. Oui.
Il est japonais, oui. Et il a une importance capitale dans ce film, je trouve, parce que c'est le seul qui est lié vraiment à un événement. C'est-à-dire que ce film construit comme une espèce de promenade. À la fin, il y a un problème, et à la toute fin, et il y a ce génie qui apparaît et qui le résout. Mais c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que c'est un film où il ne s'est rien passé, où il n'y a pas eu d'événement. C'est vraiment... On se promène dans le quotidien le plus absolu, et je trouve que c'est exactement ça qui fait un bien fou dans le cinéma aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est pas un cinéma où on se sent obligé de construire un scénario avec des rebondissements toutes les minutes et où on est assailli d'informations. C'est pas non plus un cinéma où on est assailli de pensées, de réflexions. Et Jim Jarmusch arrive à trouver cette troisième voie, peut-être, où ils réussissent à se contenter du quotidien sans plaquer dessus ni un scénario ni une réflexion, comme on en fait, et des parfois trop pédantes.
Oui, je suis complètement d'accord. Ça fait du bien, comme tu dis, d'avoir un film qui sait prendre son temps et malgré une certaine monotonie, donc on voit les jours de la semaine défiler, et même dans sa vie, tout est réglé par le réveil, le bus, voir sa copine. À la fin... Oui, comme tu dis, ça fait du bien d'avoir ce calme un peu et de savoir justement apprécier les petits riens du quotidien. Mais pour moi, justement, la fin, donc avec l'apparition de... comme tombé du ciel de...
Il y a quelque chose de magique.
De ce personnage, il y a quelque chose de magique.
Dans ce « aha » qu'il échange.
Oui. Mais pour moi, c'était, ça pose la question de savoir si justement, à la fin, c'est quand même une œuvre d'art, entre guillemets, donc un produit cinématographique. Et c'est cette apparition qui vient rompre un peu la semaine de Patterson, qui était jusque-là... Enfin, il n'y avait rien d'artificiel. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais et justement là, ça semble tellement sorti de nulle part et tellement providentiel qu'on se rend compte que quelque part, c'est qu'on on a suivi un chemin de Patterson.
Et tu parlais des petits riens, du coup, ces espèces de vibrations du quotidien qu'on arrive à déceler justement parce qu'on n'écoute que ce quotidien. Et je trouve que le film montre très bien, dans ce quotidien, l'infini des possibilités de ce qu'il nous offre aussi. Et je trouve que c'est marqué de façon très très belle par l'image du réveil tous les matins, où le couple est filmé en contre-plongée tous les matins dans une position différente. Et y a quelque chose de très, très touchant dans juste cette espèce de petite évolution insensible dont eux-mêmes ne se rendent pas compte.
C'est aussi un film qui est très drôle dans les petites touches qu'il y a à l'intérieur. Et par exemple, le dialogue quotidien qu'il a avec son collègue de travail dans le bus.
Est vraiment hilarant.
qui a toujours... un tas de problèmes et qui contraste justement avec Patterson, ou les sortes de scénettes interposées qui sont dans le bar avec ce couple qui se déchire. C'est à la fois un peu tragicomique.
Oui, jusqu'à cette tentative de suicide qui part complètement en queue de poisson quand on se rend compte que l'arme était un jouet. Il y a quelque chose de très tragicomique qui se cache sous le placide, en effet.
Oui, c'est ça. On a l'impression que le film, du coup, est assez, assez plat, assez monotone. Et finalement, quand on y revient, Ça nous vient en tête, ces images, ces petites anecdotes qui surgissent dans le film, comme dans la poésie exactement, des rimes internes, parfois un mot qui va plus nous toucher qu'un autre. Et c'est très représentatif aussi de ce qu'il écrit, où à la fois c'est un langage très simple, qui nous touche directement, avec des vers libres. Moi, j'ai eu une approche un peu ambiguë pour cette poésie. Enfin, j'étais tentée de la trouver très bien. Et puis après, je me disais, mais c'est quand même marrant. Enfin, il se moque un peu de nous à écrire sur une boîte d'allumettes ou sur n'importe quoi. Mais à la fin, on trouve ça très beau.
Et ce poème sur la boîte d'allumettes, qui pour moi est le plus réussi, est vraiment très intelligent dans la façon dont on le voit se construire au fil de la journée. C'est vrai qu'au début, il a l'air complètement banal et on se demande où il va en arriver. Et il finit par une ascension dans le lyrisme qui nous surprend en tant que spectateur, parce qu'on s'attendait presque à la naïveté.
Ouais, et dans tout le film, c'est ce sentiment qui m'a gagné, c'est-à-dire que j'avais un a priori, je me suis dit... Ah, c'est un peu monotone, et puis là, c'était très bien, quoi.
Eh bien, je pense qu'on est d'accord sur le fait qu'il faut absolument que vous alliez le voir, chers auditeurs, ce film Patterson, donc de Jim Jarmusch, qui est encore en salle pour l'instant, et puis pour un petit moment encore. Et puis, comme d'habitude, nous continuons avec un petit tour d'horizon des sorties du moment. Et je commence tout de suite avec Hedy, un vent de liberté réalisé par Mohamed Ben Attia. Hedy a dû accepter l'épouse que sa famille a choisie pour lui. La pression exercée par ses parents, très autoritaire, étouffe le jeune Tunisien timide et mal aimé par les siens. Et pourtant, un jour, il rencontre Rim, une femme indépendante qui travaille dans un hôtel et tombe éperdument amoureux d'elle. C'est elle qui va l'encourager à réaliser son rêve de devenir réalisateur. Mais la date du mariage de Hedy approche et c'est alors qu'il choisit d'avouer la vérité à celle qu'il aime. Le film est en salle au CNP Bellecour. Et puis, Fête de beaux rêves de Marco Bellocchio, l'événement du moment, si je puis dire. Nous sommes à Turin en 1969 et Massimo, jeune garçon de 9 ans, perd sa mère dans des circonstances mystérieuses. Quelques jours après, son père le conduit auprès d'un prêtre qui lui explique qu'elle est désormais au paradis. Massimo refuse d'accepter sa disparition brutale et puis nous nous retrouvons dans les années 90 où Massimo est devenu un journaliste mais son passé le hante. Alors qu'il doit vendre l'appartement de ses parents, les blessures de son enfance tournent à l'obsession. Le film était sélectionné à la quinzaine des réalisateurs et soulève un vif succès critique. Vous en entendrez sans doute de nouveau parler dans une prochaine émission. Je continue avec Paulina, Danser sa vie de Valérie Müller et Angéline Préliocage. Portée depuis l'enfance par la rigueur et l'exigence du professeur Bojinski, Paulina est une danseuse classique prometteuse. Mais alors qu'elle s'apprête à intégrer le prestigieux ballet du Bolchoï, elle assiste à un spectacle de danse contemporaine qui la bouleverse profondément. C'est un choc artistique qui fait vaciller tout ce en quoi elle croyait et elle décide alors de tout quitter pour rejoindre Aix-en-Provence et travailler avec la talentueuse chorégraphe Lyria Elsage et tenter de trouver sa propre voie. Le film est en salle à La Fourmi. Et puis enfin, pour se faire plaisir un petit peu, ce vendredi 6 janvier à 20h45, vous pourrez vous rendre au Ciné-Café Aquarium dans le 4e et voir ou revoir ou re-revoir pour la énième fois Réservoir Dogs de Quentin Tarantino, un moment jubilatoire qui réunit des cambrioleurs de haut vol. Les hommes règlent leur compte petit à petit dans un hangar désert pour cette confrontation violente mais extrêmement drôle et cynique que constitue le premier film de Quentin Tarantino donc. Voilà, ça sera pour vos sorties de la semaine, mais cette fois-ci d'Étoiles plein les yeux, ça n'est pas tout à fait fini. Et pour finir, nous retrouvons Pierre qui attendait sagement dans son coin. Et Pierre qui est avec nous pour la première fois aujourd'hui et qui va nous parler chaque semaine de séries. Parce que oui, les séries font leur entrée fracassante dans le petit monde du cinéma et il n'y a pas de raison qu'elles ne gagnent pas également notre émission.
Exactement.
Voilà Pierre, je te laisse la parole.
the city intentionally segregated its housing for 40 years.
The whole damn city government's white.
This judge wants to take low-income housing and put it here in East Yonkers.
The trash, the drugs.
We will die from what this idiot is trying to shove down our throat.
I live here, and I am nothing like what they describe.
So what are you gonna do?
Bonjour à tous. Pour cette première, je vais vous parler d'une petite série sortie à l'été 2015, Show Me a Hero. C'est une mini-série de 6 épisodes d'environ 50 minutes chacun, produite par la célèbre chaîne HBO. Sous forme de drame politico-historique, elle s'inspire de faits réels qui ont secoué pendant des années la ville de Yonkers dans l'état de New York. En 1987, date à laquelle débute la série, la ville est contrainte par un juge fédéral de construire des logements sociaux dans différents quartiers afin de respecter les politiques de déségrégation datant des années 60. S'ensuit alors de nombreuses années de protestations et de luttes politiques. La série est conçue par David Simon, auteur entre autres de The Wire, sur écoute en France, Trim ou Generation Kill, dont nous reparlerons sûrement plus tard. Simon est réputé pour son regard sociologique de la vie quotidienne et son efficacité à montrer les lourdes questions raciales qui persistent aux États-Unis. Show Me a Hero ne fait pas du tout exception et nous montre le quotidien de différents protagonistes de différents milieux sociaux. D'un côté, les Blancs, soit au conseil municipal qui essaye de profiter politiquement du conflit, soit chez les habitants aisés refusant l'arrivée des nouveaux logements. D'abord pour des questions économiques, mais très rapidement pour un racisme sans complexe. De l'autre, les minorités, quasiment toutes des mères plus ou moins jeunes et seules pour diverses raisons, mais toujours avec des enfants en bas âge. Sauf une exception, Norma, aide à domicile de 47 ans qui perd la vue à cause de son diabète. Cette séparation en deux univers totalement distincts, qui pourtant doivent se rejoindre selon l'arrêté d'un juge fédéral, est parfaitement menée tout au long des 6 épisodes. La ségrégation entre les deux univers est parfaitement représentée à la fois par la situation que par les logements, soit délabrés et entassés, soit larges et élégants, ainsi que par des plans de situation montrant les différents quartiers. Rien n'est laissé au hasard, et on s'accroche vraiment aux personnages. Le jeu d'acteur, mené par un Oscar Isaac au sommet dans le rôle central de Nick Wasisco, est juste parfait. On y croit jusqu'au bout. Pas de surjeu, beaucoup de subtilité. Après, c'est un style qu'il faut aimer. Très loin des sitcoms ou des grosses séries à succès. D'ailleurs, les audiences de Show Me a Hero ont été extrêmement basses, malgré des critiques quasiment intégralement positives. Les points forts de cette série sont avant tout son attention aux détails et à la vie quotidienne. Je ne pourrais pas le souligner suffisamment. Après, c'est peut-être le fait d'avoir étudié le pilote de surécoute en cours de sociaux, mais il est impossible de ne pas observer la gestuelle des personnages, cerner leurs ressentis, etc. Un plan m'a frappé, dans l'épisode final, un personnage blanc fait des visites chez les habitants des quartiers pauvres. On lui sert du thé, mais la tasse a un accroc. Alors une des femmes noires s'empresse d'échanger le plus discrètement possible leurs deux tasses, ce qui ne passe pas inaperçu, et en un quart de seconde, on voit clairement que la femme blanche a compris ce qui vient de se dérouler sous ses yeux. C'est rapide, mais extrêmement fort, et c'est pour ça que j'adore les séries de David Simon. Enfin, avant de passer à ce qui peut gêner, je veux me pencher vite fait sur le titre. Dans le deuxième épisode, un ami du tout nouveau maire, Nick Wasisco, interpelle un journaliste en lui disant « Voilà un héros », à quoi le journaliste répond en citant Fitzgerald « Show me a hero and I will write you a tragedy ».« Montre-moi un héros et je t'écris une tragédie pour les vilains normaliens qui n'ont pas leur béant ». Et c'est exactement ce qu'est Wasisco, un jeune héros de tragédie, propulsé par un coup de poker à la tête de la ville. Sa déchéance est douloureuse à suivre parce que son hubris ne cesse d'augmenter plus les échecs tombent. Show Me a Hero montre une image délabrée de la politique qui se fait à coups d'amendes considérables imposées par le juge, de revirements d'alliance au sein du conseil municipal et surtout d'ego. Loin de Borgen ou House of Cards, cette série montre la politique comme une activité de la vie quotidienne qui a un véritable impact. Toute l'intrigue repose sur cet impact justement, d'où le sous-titre « Comment savoir si on fait quelque chose de bien ? On nous le fait payer ». Pour commencer les points faibles, une petite note concernant une mise en abîme que je trouve particulièrement intéressante. Dans l'épisode 2, l'opposant principal au projet visite les quartiers pauvres pour prendre des photos choc. La caméra se pose sur une action banale comme des enfants jouant, puis se fige en une photo noir et blanc pour révéler une action violente. Si le conseiller municipal détourne les images pour faire peur, que dire des images de Paul Haggis, le réalisateur de tous les épisodes ? La démarche de Simon vise bien sûr à une forme d'hyper-réalisme quasi sociologique, mais j'ai ressenti une forme de success story, de misérabilisme. Il me semble que c'est une critique que l'on peut facilement faire, on suit trop les gentils de l'histoire. On n'a vraiment qu'un côté de cette histoire. Même le personnage de Marie Doman, femme blanche aisée refusant le projet de logements sociaux près de chez elle, se retrouve du bon côté de tout ce bazar. Force est de reconnaître que ça ne tombe pas du jour au lendemain et que la progression est subtilement marquée. C'est d'ailleurs peut-être un des personnages les plus intéressants. En bref, pour la faire simple, amis de droite, cette série n'est pas pour vous. Dernière critique, à faire cette fois-ci sur le découpage chronologique des épisodes, et donc l'écriture même de la série. Le coup de la scène d'intro qu'on ne comprend pas et qui revient et qui s'avère en fait être le prélude de la scène finale est trop cliché pour être utile. Pourtant, la dernière scène est particulièrement forte et réussie, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Dans sa globalité, la série est prenante et très bien écrite, sans temps mort. Mais ce qui gêne un peu, je trouve, au développement de l'histoire, du coup, c'est le fait que l'histoire se passe sur 7 ans, et que beaucoup de périodes sont trop rapidement survolées, limitant la compréhension globale du conflit. Bien sûr, en 350 minutes, on ne peut pas tout dire, et le choix de la vie quotidienne par-dessus les intrigues politiques est totalement assumé. Même si, par exemple, la descente dans la drogue d'une des mères noires devenue veuve est un peu trop rapide et laisse la place à beaucoup de clichés venus d'ailleurs, comme d'autres séries, par exemple, fâcheux quand on veut justement fuir les stéréotypes pour montrer la vraie vie des différentes classes sociales qui s'opposent. Maintenant que tout ça est dit, je lui accorde facilement la mention à binge-watcher un long week-end d'hiver, avec un score de 13 conseillers municipaux sur 15. On se retrouve la semaine prochaine pour une série nettement plus joyeuse.
Merci beaucoup Pierre donc pour cette première de tes chroniques sur la série et puis on te dit à la semaine prochaine. Voilà, d'étoiles plein les yeux, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup à Camilla et Pierre donc pour leur participation à l'émission et je vous dis à tous à la semaine prochaine sur Transistor.